C'est Pascal Nkolo de Guémena dans l'Équateur. Je voulais connaître jusqu'à quand ce fameux gouvernement serait mis en place, parce que nous sommes déjà à 7 jours après la prestation du serment de chef de l'État.
Bonsoir à tous. Vous avez écouté cette question d'un de nos auditeurs de Guémena, Pascal Nkolo. Elle est partagée par de très nombreux Congolais. C'est à cette question que nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Il y a exactement une semaine, depuis que l'investiture du nouveau président a eu lieu, investiture au cours de laquelle le président Joseph Kabila a fixé les objectifs de son mandat. Alors, à quand la constitution du nouveau gouvernement pour s'attaquer au chantier du président? À quand, en particulier, la nomination du Premier ministre qui devra le constituer et diriger son action? Le président lui-même avait utilisé l'expression « dans les tout prochains jours » et précisé que cela se ferait conformément à la Constitution. Quelles sont alors les étapes légales à franchir avant d'avoir un gouvernement opérationnel? Quels sont les enjeux autour de la nomination attendue du Premier ministre et de la formation du gouvernement? Vos opinions, attentes et questions sont nombreuses en tout cas. Jenny Nondo de Kinshasa estime que M. Gizenga, qui a signé des alliances avec le président élu, doit déjà composer son gouvernement car il n'y a pas de temps à perdre. Dieudonné Losaka veut savoir si l'on peut constituer un gouvernement avec le Sénat qui n'est pas encore installé. Fernand Fouambe de Lubumbashi estime que le choix du Premier ministre doit être judicieux et il faut attendre. Alain Bakeke à Beni, dans le Nord Kivu, demande à ce que le député et les juges accélèrent les choses car le 1 plus 4 a été enterré. Pour répondre à vos questions et analyser vos réactions, nous recevons dans ce studio Jacques Joly, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa, François Elika, analyste politique et enseignant à l'école du journalisme à Kinshasa, est également dans ce studio. Bien entendu, votre participation à cette émission est toujours la bienvenue.
Vous voulez participer à l'émission ? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-999-222.
Alors, monsieur Jacques Njoli et monsieur François Elika, bonsoir.
Bonsoir.
Combien de temps avant la mise en place du nouveau gouvernement, le Premier ministre qui va constituer ce gouvernement sera proposé par la majorité parlementaire? Et pourquoi cette majorité ne l'a pas encore désignée? Parce qu'il y a un parcours institutionnel à suivre, un parcours en plusieurs étapes. Claude Quinza.
Première étape, la Cour suprême de justice devra rendre un arrêt sur la conformité à la Constitution du projet de règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. La Cour suprême de justice a jusqu'au 25 décembre pour rendre cet arrêt, soit 15 jours ouvrables à dater du jour du dépôt de cette requête. Deuxième étape, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale au cours d'une plénière de l'actuelle session du Parlement. Il faut dire que l'élection du président de l'Assemblée nationale est un enjeu important. En effet, ce poste est un poste clé dans la mesure où l'institution Parlement vient tout juste après l'institution président de la République. Troisième étape, une fois le bureau définitif de l'Assemblée nationale élu, ce bureau va convoquer une session extraordinaire du Parlement. Objet, dégager une majorité parlementaire qui va présenter un Premier ministre au président de la République. Quatrième étape, le chef de l'État nomme le Premier ministre présenté par la majorité. Cinquième étape, après consultation avec la coalition politique formant la majorité, le Premier ministre forme son gouvernement. Enfin, sixième étape, le chef du gouvernement présente son gouvernement et son programme à l'Assemblée nationale. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au moins 251 députés nationaux, alors seulement l'Assemblée nationale investit le nouveau gouvernement.
Alors, professeur Jacques Joly, je rappelle que vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa et à l'Université protestante au Congo. Vous avez suivi notre confrère Claude Quinza et les inquiétudes évidemment de nos auditeurs. Est-ce que la procédure ne risque pas de prendre encore 2 mois?
Merci beaucoup pour la question. Je crois que nos amis n'ont pas à s'inquiéter. Nous sommes dans une phase à la fois de mise en place et de fonctionnement des institutions. Mise en place parce que nous sortons, n'est-ce pas, d'une phase de transition et nous allons, n'est-ce pas, vers l'instauration, la consolidation d'un nouvel ordre politique. Voilà pourquoi la Constitution prévoit un certain nombre, n'est-ce pas, d'actes ou une certaine procédure. Nous avons élu il y a quelque temps notre président. Nous avons élu avant le président des députés. Maintenant que le président est élu, il faut passer à la seconde phase donc de la désignation du premier ministre.
Oui, mais nous avons entendu notre confrère Claude Tianza qui disait qu'il fallait d'abord qu'on ait aussi un président à l'Assemblée nationale. En quoi l'élection du président de l'Assemblée nationale peut être importante?
C'est très important parce que l'Assemblée nationale, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, n'est qu'une partie du Parlement. C'est un Parlement bicaméral, c'est-à-dire qu'il y a deux chambres. Une chambre qu'on appelle basse, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, et une chambre haute, le Sénat, qui va être mise en place incessamment. Ça, c'est de un. De deux, l'Assemblée nationale, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, n'a pas encore de règlement d'ordre intérieur.
Oui, le règlement d'ordre intérieur
n'est pas encore adopté. Donc, ils n'ont pas encore de texte ou de cadre organique leur permettant de fonctionner.
Il se trouve à la Cour suprême de justice.
Voilà, donc la Cour suprême, comme a dit Claude, doit d'abord donner son avis de conformité, et ce n'est qu'alors qu'on aura un outil. Ils n'ont pas de bureau, ils ont encore un bureau provisoire. Donc, l'actuelle session du Parlement avait pour but essentiellement de valider le mandat, ensuite de mettre en place le bureau provisoire, enfin de rédiger le règlement d'ordre intérieur.
Sur base duquel sera élu le président de
le bureau définitif. Il deviendra ensuite la convocation d'une session extraordinaire pour, n'est-ce pas, aborder la question spécifique, n'est-ce pas, de la mise en place du gouvernement. Le droit, la démocratie, n'est pas simplement le choix des électeurs. Il s'agit aussi de respect de forme. Ce n'est pas 2 mois, ça peut être 3 mois, ça peut être 15 jours, mais il y a un délai. Par exemple, pour le règlement d'ordre intérieur, la Cour suprême a au moins 15 jours pour se prononcer, parce que c'est un document épais, volumineux, technique, qu'il faut examiner, parce que c'est de ce document que, n'est-ce pas, nous allons avoir un très bon Parlement,
donc, une bonne Assemblée. Disons qu'il y a vraiment un parcours légal qu'il faudra encore parachever et que ce sera très long.
Mais si nous voyons d'où nous venons et là où nous allons, nous sommes presque au bout du parcours. C'est-à-dire que nous avons l'Assemblée nationale, nous avons un président que nous avons élu après 2 tours, nous aurons très bientôt le Sénat, parce que les députés provinciaux sont déjà élus, ils vont se réunir à l'Assemblée provinciale pour élire les sénateurs le 7 janvier, et après nous aurons le 2 chambres, et finalement, il y aura un Premier ministre. Le président va le nommer, et l'Assemblée nationale va, n'est-ce pas, l'investir après, n'est-ce pas, présentation d'un programme.
Professeur Ndjoli, il y a un de nos auditeurs, je crois, il s'appelle Dieudonné Losaka, et lui demande, est-ce qu'il faudra attendre aussi la mise en place du Sénat?
La question fait un peu débat. Il y a certains qui estiment que l'existence d'une seule chambre, chambre qui d'ailleurs techniquement évalue ou donne le quitus ou, n'est-ce pas, investit le gouvernement, suffit, n'est-ce pas, pour que nous puissions passer à la phase de désignation du Premier ministre. Une autre tendance qui est la mienne croit que l'article 100 parle de la majorité parlementaire, on parle d'un Parlement bicaméral et il ne serait pas sain qu'on puisse mettre en place le gouvernement avant l'arrivée de l'autre chambre. Voilà pourquoi je crois qu'il faut aller étape par étape. Bien sûr, on peut forcer les choses. On peut faire une lecture politique pour dire, oui, l'Assemblée nationale est là, puisque c'est l'Assemblée, devant l'Assemblée qu'on présente le programme, allons-y vers l'Assemblée. Mais je crois que nous avons la notion du Parlement, et le texte dit, le président de la République consulte, n'est-ce pas, la majorité parlementaire.
Et c'est ça même la question de Joël de Béni, en Nord-Kivu, dit le nouveau pouvoir doit savoir que le temps presse et que les défis à relever sont immenses. Déjà, il lui reste 5 ans, moins 7 toujours, et son bilan demeure nul. Alors, il demande, est-ce qu'il n'y a pas de moyens légaux pour accélérer le mécanisme?
Non, le moyen légaux, l'état de droit pour lequel nous nous battons, exige le respect de procédures, le respect de délais, le respect des institutions. Si nous commençons déjà à ce moment-là, à ce moment-ci, à escamoter certaines procédures, à ce moment-ci, à émasculer, c'est-à-dire couper certaines institutions, nous risquons, n'est-ce pas, d'avoir une démocratie à un pied. Ce n'est pas bon. Nous avons suivi un processus qui a commencé il y a pratiquement 2 ans, 3 ans, allons-y pour l'intérêt de l'état de droit jusqu'au bout, et je crois que nous y arrivons de manière sereine.
Oui, peut-être qu'on peut encore vous poser une question, professeur Julie. En début de semaine, il y a le cabinet du chef de l'État qui a demandé à ce que les ministres ne conduisent que les affaires courantes. Et je vous lis même la phrase du directeur du cabinet. Compte tenu du fait que la procédure de nomination du Premier ministre et des membres du gouvernement est déjà engagée. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction avec tous les parcours que vous donnez?
Non, je crois qu'il faut pas confondre la chaleur politique avec la sérénité du droit. Les affaires courantes, dès lors que nous sommes dans la transition, dès lors que le président de la République est élu, dès lors que nous sommes dans un processus de mise en place de nouveau gouvernement, les gouvernements actuels sont conscients qu'ils ne gèrent que les affaires courantes. Aujourd'hui, tout est en train d'être mis en place. Voilà pourquoi d'ailleurs dans les textes on a parlé de l'article 222 de la Constitution qui a prévu, n'est-ce pas, les dispositions transitoires. C'est un rappel qui est peut-être important, mais c'est un rappel pour moi qui est superfétatoire.
Voilà, nous avons aussi dans ces studios François Elika, vous êtes analyste politique et enseignant à l'école de journalisme à Kinshasa. Vous avez écouté le professeur Jolie qui a donné ce parcours et il demande que la nouvelle démocratie suive ce parcours. Quel est votre avis?
Bon, mon avis est positif, mais il faut dire que nous sommes en face d'une question de procédure qui a été formalisée au niveau de la Constitution. La nomination, c'est vrai que ce qui pose le problème de la nomination du Premier ministre se situe dans une perspective de l'urgence qu'il y a par rapport au fait que le chef de l'État ayant prononcé son discours, les gens veulent tout de suite voir ces changements s'opérer dans notre pays. Ils veulent tout de suite être en face d'un gouvernement qui devra, un gouvernement responsable, à qui ils devront soumettre leurs préoccupations et répondre, trouver des solutions. Donc là, nous sommes en face d'une expression démocratique qui est réelle, qu'il faut respecter. Ça veut donc dire que dans le chef de ceux qui nous gouvernent, il y a aussi urgence que cette procédure, un peu comme elle ressort ou elle transparaît dans la correspondance du directeur du cabinet du chef de l'État, que la procédure déjà engagée, mais il faut dire que c'est une procédure politique. C'est pas une procédure juridique.
Est-ce que c'était peut-être une façon de dire que, en fait, nous tenons à ce que les choses aillent vite, de montrer ce caractère d'urgence, mais en sachant qu'il y a un parcours à suivre légalement?
Bon, le parcours à suivre ne vient pas effacer l'urgence. L'urgence, elle est là parce que les gens ont élu pour que les changements arrivent, ils ont élu pour que les institutions provisoires cèdent la place aux institutions légalement installées. Et bon, c'est en cela que chacun de nous voudrait se reconnaître. Mais moi, je pense que le problème est ailleurs. Il est ailleurs, pourquoi? Parce que quand le cabinet dit la procédure de la nomination du Premier ministre est déjà entamée, il ne faut pas croire que c'est ça qui explique le fait que les ministres ou les institutions en place doivent expédier les affaires courantes. Les affaires courantes, c'est la conséquence de la rupture
comme l'a dit le professeur Ndjoli.
Comme il a dit, c'est la conséquence et c'est même du bon sens. On aurait même n'est pas à écrire, mais chacun de nous saurait que j'expédie des affaires courantes et qu'en ce moment, compte tenu de la nouvelle configuration qui doit caractériser les institutions, il va de soi qu'on ne peut pas engager l'État à travers des dépenses importantes, on ne peut pas signer des accords. Non, ça c'est pas possible. Même les ministres, ils ne peuvent pas signer des accords, ils ne peuvent pas engager la République sur des choses qui, en principe, relèvent de la compétence du gouvernement futur.
Voilà, alors nous avons vu avec nos auditeurs qu'il y a une certaine impatience. Professeur Ndjoli, vous avez donné toutes ces étapes légales qu'il faut suivre. Et on peut estimer aujourd'hui là à combien de temps encore pour qu'il y ait un Premier ministre qui va former un gouvernement.
Je crois que c'est une question qu'il faut peut-être poser au devin, mais je crois que lorsque nous lisons le calendrier mis en place par la CI, il est bien établi que il faut attendre, à ce qui concerne le Parlement par exemple, on sait que les élections de sénateurs auront lieu le 7 janvier. En ce qui concerne le Parlement lui-même, donc l'Assemblée nationale, ils ont déposé, selon certains éléments, le texte le vendredi passé. Donc, la Cour suprême elle-même est délocalisée à des problèmes de gestion matérielle. Donc, la Cour va recevoir, ou a déjà reçu, je ne sais pas, le règlement de l'intérieur et dispose de 15 jours.
15 jours.
Aujourd'hui, nous sommes,
le 13 aujourd'hui.
Donc, il faut compter au moins 15 jours. Donc, d'ici la fin du mois, pour, n'est-ce pas, avoir le règlement d'ordre intérieur.
Et s'il est avalisé par la Cour suprême de justice et on va passer à la nomination d'un président
non.
du...
Non, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, la convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire.
Ça peut prendre encore 3 jours.
Voilà. Et cette Assemblée doit venir. Et c'est alors que... Si on adopte l'option de ceux qui disent que l'Assemblée nationale suffit pour qu'on puisse, n'est-ce pas, aborder la question du gouvernement.
Et comme il n'y a pas de majorité, il faudra une mission d'information.
Voilà, il faut encore constituer le commission, constituer le groupe parlementaire, parce qu'aujourd'hui, l'AMP n'est pas un groupe politique juridique ou l'UN.
Voilà.
Donc, il faut constituer le groupe parlementaire. Est-ce que ce sera le groupe PPRD, ce sera le groupe MLC,
et ces groupes... On peut encore prendre 5 jours.
Voilà. Donc, je crois que logiquement, tel que nous le savions déjà en lisant le communiqué des institutions qui nous accompagnaient, on savait que c'est vers mi-janvier, ou plutôt fin janvier, que nous aurons probablement un gouvernement. Et je crois qu'il faut laisser le temps, laisser les institutions à assurer leur maturation et le processus leur maturité. Sinon, eh ben, nous allons manger de fruits de l'avant-saison et ce ne sera pas intéressant.
Alors François, Elika, est-ce que cette façon d'attendre ne risque pas de lasser les populations qui attendent voir des actions concrètes du nouveau pouvoir?
Non, je ne pense pas. Bon, il faut peut-être préciser que les délais de 15 jours, c'est un délai butoir. Hein.
Voilà.
Donc, la Cour suprême peut toujours
agir avant.
Donc, mais dans tous les cas, on ne va pas avoir le gouvernement un jour après. On n'aura pas le gouvernement un jour après, dans la mesure où la Constitution précise qu'il faut d'abord qu'on mette en place les bureaux définitifs de l'Assemblée. Et c'est cette Assemblée qui devra, en principe, recevoir le programme du gouvernement. Donc, il y a cette procédure qu'il faut respecter. Mais la lecture politique ici, comme je l'ai dit au début, consiste à pouvoir admettre que la population attend énormément que les choses changent et il va falloir qu'on puisse y atteler pour lui donner satisfaction.
Voilà, la mise en place du nouveau gouvernement met plusieurs facteurs en présence. Non seulement une grande coalition politique a permis la victoire de l'alliance de la majorité présidentielle aux différentes élections, mais encore faut-il constituer le gouvernement avec ses différentes forces politiques. Quels sont les enjeux? Retrouvons encore une fois de plus Claude Quinza.
La coalition ayant conduit à la victoire, l'actuel chef de l'État est constitué de l'union de la majorité présidentielle AMP, du Palou d'Antoine Gizenga et de l'Union des démocrates mobutistes UDEMO des Nzanga Mobutu. Selon les accords signés avant le deuxième tour de l'élection présidentielle, toutes ces forces politiques devront se répartir des postes au niveau du gouvernement. L'ANP détient la présidence de la République, le Palou prendra le poste de Premier ministre, tandis que l'UDEMO des Nzanga Mobutu aura la préséance dans le gouvernement juste après le Palou. Mais comment répartir des postes à toutes ces forces politiques ayant contribué à la victoire de Joseph Kabila? Ceci en tenant compte du mélange entre d'une part la compétence et d'autre part le respect des engagements politiques pris par les uns et les autres. Cette tâche ne sera pas facile dans l'actuelle coalition politique au pouvoir, dans la mesure où il y a risque de ne pas satisfaire tout le monde. Quelles sont les forces politiques qui accepteront d'être mises de côté et quelles seront les conséquences de cette situation? Telles sont les questions qui restent encore sans réponse.
Voilà, des questions qui restent encore sans réponse. Et en début de semaine, la presse quinoise a estimé que le gâteau était très petit. Est-ce le problème des appétits des uns et des autres, disons, ces appétits-là et évidemment les alliances qu'il y a autour, est-ce que ces problèmes peuvent être résolus pour la mise en place d'un gouvernement aussitôt qu'on aura résolu les moyens légaux, François Ilka?
Oui, ces problèmes peuvent être résolus. Ce sont des problèmes qui nécessitent un sens de responsabilité politique, un sens de lecture, un sens de leadership dans le chef de ceux qui ont pris ces engagements. Il faut dire que ici, c'est vrai, le problème se pose en termes de respect des engagements, mais aussi en termes de nécessité de qualification de principe devant présider au choix d'hommes qu'il faut avoir au niveau du gouvernement. Je ne veux pas accompagner la presse dans l'expression, pour moi, confuse, le gâteau est trop petit, dans la mesure où il y a des postes de mandataires par rapport à la gestion des entreprises, par exemple. Il y en a qui ne vont pas souhaiter entrer au gouvernement, estimant que ce gouvernement pourrait tout de suite être frappé par les virus de l'instabilité et qu'ils vont préférer gérer une entreprise, ça leur ferait un peu plus d'avantages en termes matériels, peut-être. Donc, moi, je pense que le problème ici, c'est celui de savoir que Kabila a signé des accords avec Antoine Gizenga, avec le Palou Mobutu et Nzanga Mobutu. Ce sont des accords qui sont stratégiquement politiques. Il ne faut pas trouver là-dedans la question de compétence ou la question de technocratie. Il sait très bien que nous allons mettre en place un gouvernement, mais c'est un gouvernement qui répond d'abord à une motivation politique.
Non, mais dans l'accord avec le Palou, il est même dit que la formation du gouvernement se fera sur base de la moralité et de la compétence.
Ça signifie que pour moi, je ne suis pas en train de dire, comme la presse le sous-entend, d'opposer le fait que quand on signe, on respecte les engagements, ça veut donc dire qu'on est tenu qu'à ces engagements, on n'y met pas l'élément de compétence. Comme si la compétence ne se retrouverait pas chez ceux avec lesquels on avait pris des engagements. Donc j'aimerais que cette argumentation soit claire à ce niveau pour que nous puissions comprendre. Donc, dans le Palou, il y a des gens compétents. Dans l'UDEMO de Nzanga Mobutu, il y a des gens compétents. Mais nous disons que nous sommes en face de la primauté de l'élément politique au départ. Donc, ceux qui ont signé les accords, pour des raisons de sensibilité politique d'abord, ils sont tenus à respecter ces accords. Maintenant, en respectant ces accords, il va de soi que le gouvernement qui va travailler, ça va être un gouvernement qui aura affaire à des questions techniques. Comment, face à ces questions techniques, il faut trouver des personnes compétentes, qualifiées pour faire face à ce problème? Donc, la compétence est pour moi un élément subsidiaire, tributaire au fait qu'il faut respecter les accords. Mais l'élément le plus important, je vous en prie, c'est que ici, Kabila est tenu de respecter ses accords. Avec le Palou, il est tenu de respecter ses accords avec Nzanga Mobutu pour la simple raison que le respect de ses accords lui permet de consolider son enracinement national, surtout dans l'espace ouest, où ces deux ont pu lui apporter un supplément fortement déterminant par rapport à son élection. Donc, pour moi, je considère que le premier enjeu, d'abord, c'est celui-là en termes de respect. Ensuite, l'aspect lié à la technocratie exige qu'il y ait un consensus autour de la définition du profil de la personne ou des personnes qui devront faire partie.
Et là, nous avons reçu beaucoup de réactions de nos auditeurs. Hippolyte Mbaye Kananga demande au Premier ministre qui sera nommé de ne pas prendre des anciens ministres et de bien faire le choix des nouveaux qualifiés et surtout des techniciens pour la crédibilité du gouvernement et la lutte contre la corruption. Professeur Njoli, vous êtes avec nous dans ce studio. Je rappelle que vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Vous avez écouté ce qu'a dit Monsieur François Elika. Quel est votre avis?
Je partage globalement ce que dit François, mais je voudrais dire d'abord que personnellement, je suis choqué par les mots qui sont employés, le gâteau, les partages. C'est une vision de gestion de l'affaire de l'État qu'il faut dépasser. L'État doit cesser d'être un garde à manger, l'État doit cesser d'être un étang où les gens viennent, n'est-ce pas, se servir à travers de postes, à travers, n'est-ce pas, ce qu'on appelle trouver le prébend.
Non, oui, mais professeur,
j'arrive. Ce qui est important.
La politique est un jeu d'intérêt aussi et d'expression.
Non. Il faut cesser de lire la politique sous ces termes-là. La politique sert à transformer la vie d'une société, ça ne sert pas à enrichir des individus. Il faut cesser. L'État n'est pas c'est pas une casserole, n'est pas une marmite où on vient se servir. Ceci étant, l'EMP, le Palou, l'UDEMON ont signé un accord. Mais ce qui est important, ce n'est pas le partage de postes. C'est d'abord le programme. On n'en parle pas assez. Et c'est là où l'opinion attend.
C'est un grand enjeu, hein.
Donc, les cinq chantiers ou les cinq piliers du président Kabila, comment transformer les discours en action, en termes de méthode, et voir au sein de la majorité, en respect des accords politiques passés, quels sont les acteurs qui vont, n'est-ce pas, qui peuvent permettre d'atteindre ces objectifs. C'est vous qui avez parlé de l'urgence, vous qui avez parlé des attentes énormes de cette population qui vit en deçà d'un dollar par jour. Comment résoudre ces problèmes de l'eau, d'électricité? Voilà le vrai enjeu. Le partage des postes de Premier ministre au Palou ou un poste éminemment politique à l'UDEMON, ce sont des considérations politiques, pour ne pas dire politiciennes. Mais c'est autour du programme. Ce que je dis, je le tire du texte, parce que l'article 90 de la Constitution dit ceci: avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée le programme de gouvernement. C'est lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue de membres qui composent l'Assemblée que celle-ci investit le gouvernement. Donc, le droit d'agir du gouvernement découle du programme et ne découle pas des individus qui sont composés.
Professeur Joly, vous proposez que les programmes soient mis en avant et que sur base de ces programmes, qu'on puisse trouver des hommes compétents.
Si c'était mon avis, mais la lecture, vous le savez, ça sera une lecture politicienne. Mais ça va nous poser, ça va nous amener à des problèmes. Pourquoi? Hier, je suivais un membre le secrétaire général d'un parti politique, justement, qui fait partie de la majorité présidentielle, qui commence déjà à poser les problèmes. Je crois c'est du RCD KML, qui dit voilà, nous avons apporté ça dans la casserole, et maintenant, dans le partage, il n'y a plus de réunion. Donc, on sent la friabilité, la fragilité de cette, n'est-ce pas, majorité, parce que pour trouver la majorité électorale, le président a dû ratisser large avec l'AMP, avec le PALU, avec l'ARC, avec les indépendants pour, n'est-ce pas, faire le chiffre qui permettra au gouvernement. Mais maintenant, c'est de la gestion rationnelle des ambitions des uns et des autres sur fond d'un programme que le quoi sortira la piste vers le...
François Elika, est-ce qu'il faudra faire semblant devant les intérêts de ceux qui ont milité pour que tel ait le pouvoir?
Non, c'est même des éléments déterminants, mais j'aimerais qu'on se comprenne. Je crois que nous disons la même chose. La politique, il ne faut pas la lire en termes essentiellement des intérêts, il faut la lire en termes d'idéal qui vous anime, pour arriver à résoudre les préoccupations de ceux qui vous ont élus. Donc il y a à travers l'élément politique, l'élément du contrat. Vous avez le pouvoir, mais pour faire quoi? C'est pour résoudre les problèmes qui vous ont été soumis et qui vont vous être soumis. Donc, mais au-delà, il faut savoir que la politique, elle est faite par les hommes et que ceux qui sont là-dedans, ils n'ont pas que l'idéal. Ils ont aussi leurs intérêts, sinon ils ne s'engageraient pas. Ils ne pourraient pas prendre ces risques pour rien que pour nous. Ils ont aussi leur avantage, même si au-delà de ça, il y a la satisfaction morale si on a bien travaillé. Mais il faut dire que par rapport à tout ce que nous vivons, il se pose, c'est vrai, un véritable problème autour du chef de l'État. En termes concrets, c'est quoi? C'est qu'il y a deux gens. Déjà, nous apprenons qu'il y a deux thèses. La première thèse, c'est laquelle? Il y en a qui disent, c'est vrai, on a signé ces accords, mais il ne faut pas oublier que ces accords sont venus après. Et qu'au premier tour, si Kabila n'avait pas été maintenu au premier tour, il n'y aurait jamais eu ces accords.
Donc il y a un groupe du premier tour et un autre groupe du deuxième tour.
Tout à fait, qui disent qu'au nom de cela, nous ne pouvons pas être exclus. Il y en a qui disent que si, donc la deuxième thèse, c'est celle du partenariat avec les autres forces politiques, c'est vrai, vous l'avez fait, mais les défis ont été beaucoup plus majeurs, beaucoup plus larges, beaucoup plus énormes au deuxième tour. Mais comme l'autre camp ne pose pas le problème de l'inopportunité d'un premier ministre compétent. Donc tous sont d'accord qu'il faut respecter les accords, il faut trouver des hommes valables, pas seulement le premier ministre, mais tous ceux qui vont faire partie du gouvernement, qui soient des hommes techniquement valables, politiquement et moralement bien, pour qu'ils fassent face, ils puissent relever les défis.
Donc c'est une illustration des conflits peut-être d'intérêts, mais il y a aussi les auditeurs qui ont leurs préoccupations, et vous savez que l'un des accords signés avec l'AMP et qui a joué aussi grand, c'est l'accord avec le PALU. Il y a un auditeur qui pose une question dans ce sens. Nous allons peut-être suivre et lui donner une réponse.
C'est le docteur Fernand Mwamba. Je vous appelle depuis Lubumbashi. Mon problème, c'était qu'on nous donne un premier ministre qui puisse vraiment répondre aux attentes du peuple congolais au lieu de tenir compte de certaines tendances politiques.
Voilà. Vous avez écouté cette question de Lubumbashi. On sait que selon les accords politiques, le poste de premier ministre devrait revenir au Palou. Alors, ça peut être Antoine Gizenga lui-même ou quelqu'un d'autre, mais cet auditeur a posé un problème posé par d'autres auditeurs. Antoine Gizenga, aujourd'hui, on le sait, a plus de 80 ans. Est-ce que l'âge et la condition physique, par exemple, et la moralité du Premier ministre constituent un enjeu pour la formation et la direction du prochain gouvernement, François Elika?
En termes de principes et formellement, oui. Bon, mais par rapport à Antoine Gizenga lui-même, j'ai senti que les non-dits du discours voudraient dire est-ce qu'il est moralement et politiquement, est-ce qu'il va être compétent pour faire face à tous ces défis? Bon, écoutez, il faut dire que la question de l'âge, à mon sens, ne se pose pas dès l'instant où nous le voyons debout, marcher et tout ça, et que nous n'avons pas été au courant d'un quelconque certificat d'inaptitude physique. Mm-hmm. Donc, ça ne se pose pas. Il ne faut pas non plus croire que quand on est suffisamment avancé en âge, on cesse d'être intelligent, ou on cesse d'être efficace dans la manière de travailler. Ce problème est réel, les gens le posent. Ça veut donc dire, en d'autres termes, que loin de minimiser ou encore de mépriser la personne de M. Antoine Gizenga, la population attend de lui qu'il fasse preuve de suffisamment de dépassement, de suffisamment de capacité pour résoudre les problèmes. Et c'est en cela que, moi, je trouve, se trouvera l'élément de confiance par rapport à la population.
Le professeur Jacques Njoli, sur cette question de Palou AMP et Antoine Gizenga.
Je crois que poser la question de l'âge de capitaine n'est pas moralement sain. Même si l'élément aptitude physique et autres, comme a dit François, c'est un problème de médecin. Mais la question, à mon avis, c'est d'abord du respect des accords. Lorsque Gizenga a signé l'accord avec l'AMP, personne n'a eu à contester. Et dès le départ, il était question que ce soit le PALU qui désigne, n'est-ce pas, le Premier ministre. Et dans la société, on savait que si le PALU devait désigner le Premier ministre, ça aurait été nécessairement Gizenga. Et le PALU vient de désigner M. Gizenga Premier ministre, ben on va...
C'est officiel?
Je crois qu'ils doivent avoir écrit, selon ce que j'ai lu dans
la presse, oui,
qu'ils ont écrit pour dire que...
En tout cas, Radio Capi a essayé de contacter le Palou et il n'était pas encore prêt à nous donner une version quelconque sur cette histoire. Et donc, ça peut-être que vous avez vos propres informateurs.
Voilà, mais ce que moi je vais dire, c'est que la politique commence d'abord par le respect des engagements. Il y a eu un engagement au sein... entre l'AMP les Palus et l'UDEMO. Je crois que le chef de l'État, il a suffisamment d'intelligence politique pour nommer un premier ministre dans cette majorité-là, parce que si il commence, n'est-ce pas, à délier, n'est-ce pas, ce qu'il a lié, ça va lui poser des problèmes pour obtenir cette majorité. Il ne faut pas oublier que le PPRD n'a pas la majorité au sein du Parlement. Ils ont, je crois, 111. Donc, pour avoir la majorité, le PPRD doit composer avec l'ARC, avec le PALU et avec même les indépendants des personnalités. Donc, toute la question, toute l'intelligence du jeu du PPRD et du chef de l'État, c'est de constituer une majorité crédible, susceptible de l'amener à réaliser son programme. N'oublions pas qu'en sciences politiques, il y a toujours les 100 premiers jours qui sont très importants pour un gouvernement. Mais cela ne veut pas non plus dire que le président ne changera pas de gouvernement après. Parce qu'il reste, au terme de l'article 78, le maître, parce que c'est lui qui nomme. Mais lorsqu'il le nomme, il doit toujours avoir en toile de fond que ce premier ministre devra passer au Parlement pour avoir ce qu'on appelle l'investiture. Et n'ayant pas la majorité, il est obligé, n'est-ce pas, de respecter les accords qu'il
Quels sont les enjeux autour de la nomination attendue du premier ministre et de la formation d'un gouvernement? Quelles sont les étapes légales à franchir avant d'avoir un gouvernement opérationnel? Nous parlons de cela avec le professeur Jacques Joly et M. François Elika. Il y a aussi les auditeurs qui ont envoyé beaucoup de réactions. MSCA, vous êtes avec nous dans ce studio, bonsoir.
Bonsoir Georges Kamjova.
Alors, la première opinion de Yale Toula à Kinshasa.
Oui, il y a les demandes aux formateurs du gouvernement de prendre les mêmes, de ne pas prendre les mêmes têtes. Nous voulons des gens avec les mêmes propres, des nouvelles têtes et des nouvelles mentalités. Il y a aussi Carole Mbaya Kananga au Kasaï occidental qui pense que la mise sur pied d'un nouveau gouvernement sera le début de la dislocation de l'AMP, d'autant plus que les cadres espèrent trouver un poste dans le gouvernement, raison pour laquelle ça tire en longueur la formation du gouvernement. Cédric de Béni, au Nord Kivu, trouve que le retard d'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale est à la base du retard de formation du gouvernement. Nous demandons donc de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, puisqu'il ne faut pas agir selon les sentiments, cela rendra le pays, n'avancera pas. Joël Ngoku d'Ouvira dans le Sud Kivu demande à ce que les politiciens arrêtent de nous mentir, que le gouvernement soit vite installé afin de songer à la sécurité avec l'affaire Kunda. Machinda Mbaya Ambujimayi au Kasaï oriental dit ceci, nous sommes impatients de voir comment le gouvernement va se réorganiser afin de pouvoir améliorer le social, surtout les salaires des fonctionnaires. Il y a aussi Pacifique Ikoka de Beni au Nord Kivu qui dit que le pays risque d'assister à des sérieux problèmes lors de l'attribution des postes conformément aux accords signés. C'est pour cela que tout traîne. Le PPRD s'est fait beaucoup d'alliés afin d'obtenir la majorité. Jean-Paul Aguemena, c'est dans la province de l'Équateur, pense qu'il faut faire attention à la formation d'un gouvernement éléphantesque qui serait préjudiciable à l'économie du pays et à la mise en œuvre du projet de société promis et que nous attendons de tous nos voeux. Doudou Ndoumbi à Kananga dans le Kasaï occidental demande à celui qui sera le premier ministre de faire un choix judicieux pour constituer son gouvernement. La dernière opinion de Jean-René Anizi dans la province orientale qui veut que dès son entrée en fonction, le nouveau premier ministre sache que ce n'est pas facile et qu'il doit saisir le taureau par les cornes. Il doit relever deux défis majeurs, à savoir le phénomène Kunda et l'amélioration des conditions sociales des fonctionnaires de l'État.
Voilà, François Elika, je rappelle que vous êtes analyste politique et enseignant à l'école de journalisme de Kinshasa. On vient de voir là des inquiétudes d'abord sur les chantiers qui doivent être mis en place, des solutions doivent être trouvées à certains problèmes des populations, et on vient de voir aussi des auditeurs qui pensent que la mise sur pied d'un gouvernement sera le début de la dislocation de l'AMP, la question d'intérêt politique dont on parlait tout à l'heure.
Je ne donne pas beaucoup de crédibilité à la thèse qui considère que la mise en place du gouvernement va nous faire assister à la dislocation de l'AMP, pour la simple raison que les gens vont réfléchir en termes réalistes. Ils vont se dire, si nous quittons et que nous partons, quelle est la possibilité que nous avons de survivre dans un environnement où nous avons déjà une force opposante, mais qui ne nous donnera rien en termes de bénéfices. Parce que s'ils doivent partir parce qu'on est content, il va falloir qu'ils trouvent des possibilités de compensation ailleurs. Quelle va être leur possibilité de se déployer en tant que force opposante et de se maintenir dans un environnement comme celui-là durant 5 ans? C'est difficile. Donc je me dis que ici, néanmoins, ça pose le problème de la capacité pour Joseph Kabila de pouvoir gérer toutes ses ambitions autour de lui. Mais au-delà de ça, il y a 2 problèmes qui n'ont pas été soulevés par nos auditeurs, mais qui sont réels aussi.
Lesquels?
C'est qu'il y a le phénomène de l'embourgeoisement. C'est quoi le phénomène de l'embourgeoisement? C'est que par rapport aux différentes thèses que nous avons avancées, il y a des gens autour du chef qui se sont battus pour que le chef soit ce qu'il est. Ces gens, ils vont exiger, se réserver des fenêtres d'opportunité réelles. C'est une maladie qui ronge toutes les démocraties naissantes, surtout dans des pays où la culture politique n'est pas très formalisée en termes participatifs. Donc nous n'allons pas échapper à ces phénomènes. Bon, peut-être que nous serons rassurés avec la petite phrase du genre « fini la récréation », il va donc se faire que le chef de l'État puisse marteler fort pour que ces telles ambitions ne se réalisent pas. Un autre problème, c'est la conclusion de l'auditeur par rapport aux défis qu'on nous a donnés, les défis Kunda et les défis sociaux.
Oui.
Il faut dire que les défis sociaux, c'est véritablement des défis.
C'est un enjeu important et les gens voudraient avoir des solutions.
Tandis qu'un Kunda n'est pas un défi sécuritaire. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, avec la reconfiguration du jeu politique au niveau de Grand Lac, les pressions exercées sur Kagame, il ne va pas se permettre à tout moment d'offrir l'espace mandé.
Est-ce qu'il faudrait voir sous cet angle-là ou il faut voir sous l'angle d'un gouvernement qui soit installé et qui sache prendre les problèmes en charge?
Non, le problème n'est pas celui de savoir prendre les dossiers en charge, c'est celui de se poser la question: quelle est la possibilité de la survie donc Kunda en tant que force de déstabilisation interne au niveau de la République démocratique du Congo. C'est ça. Donc, dès l'instant où vous n'avez pas une zone de repli, vous n'avez pas une zone de ravitaillement et que les taux se resserrent autour de vous, le droit à la survie pose problème, vous allez abdiquer.
Non, mais loin de parler de ça, il s'agit d'un problème de population, il a parlé aussi de problèmes sociaux, mais est-ce qu'il ne faudrait pas un gouvernement rapidement pour régler ce problème?
Pourquoi j'ai dit les deux véritables défis, ce sont des défis politiques. Au-delà du fait que les défis sociaux sont des véritables défis. Au-delà du fait que, maintenant, le chef de l'État doit, lui, savoir gérer autour de lui toutes ses ambitions qui vont à un certain moment, qui risquent de se télescoper et de devenir un obstacle.
Alors, professeur Jacques Joly, quelle est votre réaction par rapport à toutes ces opinions des auditeurs?
Ma première réaction, c'est d'abord de relever ce que nous avons eu à entendre tout au long de ce débat de la part des auditeurs, en fait de part des Congolais, c'est l'urgence. L'urgence des questions sécuritaires, comme celle, n'est-ce pas, de M. Kunda, sur la capacité de l'État à assumer ses charges, savoir protéger nos frontières et protéger les citoyens à l'intérieur. C'est une question fondamentale. Il n'est pas compréhensible que dans un État, il y ait de militaires, de brigades, qui ne relèvent pas du commandement central.
Oui, les auditeurs ont parlé aussi de leurs problèmes sociaux. Hein.
Les problèmes sociaux, ouais. L'urgence pour ce qui concerne, n'est-ce pas, le fonctionnaire. Mais toutes ces questions-là ne trouveront peut-être pas réponse en un jour, mais la population attend du chef de l'État élu et du premier ministre du gouvernement une approche suffisamment rationnelle pour la rassurer sur son avenir. Voilà en fait la question fondamentale de cette interrogation populaire.
Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Nous avions dans ces studios Jacques Joly, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa, et François Elika, analyste politique et enseignant à l'école de journalisme à Kinshasa. Merci à nos 2 invités, et à vous qui avez suivi cette émission et ceux qui l'ont élaborée. Pour ceux qui nous ont raté ce soir, la rediffusion en FM, c'est demain à 4h45, heure de Kinshasa, donc 1 heure de plus à l'est du pays. Vous pouvez nous réécouter aussi sur 11 690 kHz, donc en ondes courtes de 5h à 7h, heure de la capitale. Retrouvez-nous également sur votre site internet www.radioocapi.net. Vous pouvez aussi y joindre vos réactions. Avec plaisir donc, nous vous retrouvons demain. Restez en compagnie des programmes de Radio Okapi.